Jean-Ping, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Les Libyens n'arrivent toujours pas à se rassembler pour construire un État et le pays est devenu le terreau des terroristes avec des menaces sur toute l'Afrique. Est-ce que c'est ce que vous craignez lorsque vous écrivez en 2014 un livre intitulé « Fallait-il tuer Kadhafi
» J'ai écrit un livre sur l'expérience que j'avais en tant que président de la Commission de l'Union africaine. Et nous avions une position qui était celle prise par la quasi-totalité des chefs d'État africains. J'avais donc pour mandat, en tant que président de la Commission de l'Union africaine, de mettre en œuvre cette position, de la faire prévaloir et la mettre en œuvre. C'est ce que j'ai fait. C'était assez simple. Nous pensions qu'il était nécessaire de procéder autrement, de rechercher en priorité une solution politique. Et nous avions l'expérience de la Somalie, où le monde entier, les communautés internationales, le monde est intervenu et la Somalie est restée 20 ans abandonnée par cette même communauté internationale et l'Union africaine était obligée de revenir, comme vous le savez jusqu'à maintenant, pour chercher pratiquement seule une solution à la crise. Fort de cette expérience, nous avons estimé que la solution qui était préconisée à partir de la résolution du Conseil de sécurité nous amènerait dans le même état, dans les mêmes conditions que la Somalie. On ne nous a pas écoutés. Et ce que nous prévoyons, et nous avons annoncé ce que nous prévoyons, nous avons dit, si vous procédez comme ça, voici le résultat. D'abord en Libye, et tout le Sahel va s'embraser. C'est exactement ce qui est arrivé.
Le 15 janvier 2016, le Burkina et 17 autres pays ont été endeuillés par un attentat qui a fait 30 morts et une centaine de blessés. Cet attentat est une première au Burkina qui vient à la suite d'autres commis au Tchad, au Mali, au Niger. Est-ce la conséquence de la situation de chaos en Libye?
Oui et non. C'est une conséquence parce que tout ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel, dans le Maghreb, jusqu'à la Corne de l'Afrique, c'est précisément une des conséquences de l'intervention au Mali. Mais ce n'est pas la seule parce que nous savions que ACMI existait déjà avant. Tout le désert du Sahara, qui est le plus grand désert au monde, était déjà en grande partie sous la menace d'ACMI et tous les mouvements djihadistes. L'intervention à Libye a exacerbé ça et a facilité ça. Donc les menaces existaient déjà, mais l'intervention en Libye a facilité tout ça et a entraîné tout ce qui se passe actuellement. Certaines puissances européennes se sont alliées en Libye avec ceux qui ont financé les mouvements wahhabistes. C'est un État du Golfe, le Qatar, et un autre beaucoup plus grand. Il y a les deux mouvements wahhabistes qui sont au Qatar et en Arabie Saoudite. Ces deux mouvements wahhabistes, au moins l'un d'entre eux, a financé activement les mouvements comme Ansar al-Din, ceux qui ont au Mali amené scission du pays en deux avec les mouvements du Nord et le Sud. Ceux qui ont détruit Tombouctou, qui ont pris Gao, qui ont pris Kidal et qui ont mis en place un mouvement sécessionniste. Donc tout ceci est une conséquence de cela.
Aujourd'hui, c'est donc toute l'Afrique qui est menacée.
Bien entendu, l'Afrique est menacée, surtout l'Afrique sahélo-sahélienne. Ça touche certains pays d'Afrique centrale, comme le Cameroun, comme même dans une certaine mesure la Centrafrique. Évidemment, le Tchad est dans cette bande sahélo-sahélienne.
Est-ce que les Africains ont pris la mesure de la situation?
Bien sûr. Je crois que les Africains ont pris totalement la mesure de la situation parce que presque tous les Africains sont directement ou indirectement menacés. Je vais vous donner un exemple. Le trafic de la cocaïne et le trafic de l'héroïne. Parce que les mouvements djihadistes, surtout ACMI, font également du trafic. Non seulement ils enlèvent les touristes occidentaux, mais ils constituent la plaque tournante du trafic de la cocaïne et du trafic de l'héroïne. La cocaïne vient d'Amérique du Sud, Colombie et autres pays, Venezuela, traverse l'Atlantique pour aller sur la côte ouest africaine et traverse le désert du Sahara avec l'aide d'ACMI et va en Europe, qui est sa destination finale. L'héroïne, la même chose, part d'Afghanistan et du Pakistan, traverse pour atteindre les côtes africaines par la Somalie, et grâce au Shebab, va au Sahara, et la même destination, l'Europe.
Vous êtes le candidat du Front uni de l'opposition pour affronter le président sortant, Ali Bongo, dans votre pays. Il y a quelques jours, votre front faisait face à des dissensions. Est-ce qu'aujourd'hui, la maison de l'opposition est unie au Gabon?
Il y a très peu de maisons des oppositions qui sont unies. L'exemple de votre pays est parfaitement illustratif de cette situation. Il n'y a donc pas qu'au Gabon qu'on constate que les mouvements de l'opposition sont traversés par des courants divers. Nous n'échappons pas à cette règle-là.
Donc malgré cette dissension, vous espérez remporter la mise devant Ali Bongo?
Moi, j'en ai la certitude. Il y a simplement un problème que vous ne rencontrez pas là-bas. C'est que nous avons un système qui va ériger la fraude massive. Il va mettre en place une fraude massive, une fraude en amont et une fraude en aval massive. Le battre n'est plus un problème aujourd'hui. Presque tout le monde peut le battre. Mais nous demandons une transparence électorale qu'il ne veut pas mettre en place. Évidemment, parce qu'il sait que s'il met la transparence en place, presque n'importe qui pourra le battre.
Avec le système gabonais aussi qui organise un scrutin à un seul tour, comment vous comptez remporter cette élection?
Pouvoir en place, là aussi, il y a certaines similitudes avec votre pays. Nous avons eu, comme chez vous, un pouvoir qui a duré 42 ans, celui du président Bongo. C'était excessivement long. Mais je crois aussi que chez vous, d'après ce que j'apprends, le président Compaoré voulait mettre en place une succession familiale. Nous, nous avons ici, après le père, nous avons eu le fils. Donc, aux 42 ans du père, se sont succédés 7 ans du fils. Et ça fait donc un demi-siècle qu'une famille est là. C'est contraire à ce qui se passe actuellement dans le monde. Nous sommes au 21e siècle. Nous ne sommes plus au 19e siècle. Et au 21e siècle, la règle un peu partout, c'est deux mandats. Les difficultés que le Burundi rencontre aujourd'hui, c'est cela, le principe de deux mandats. Or, nous avons là un demi-siècle. Et ce n'est pas seulement un seul tour, c'est aussi une élection à un seul tour sans limitation de mandat. Donc, nous mettons en place des coalitions le samedi 13 février. Nous avons un peu moins d'une trentaine de partis qui vont me soutenir. Ça veut dire que nous mettons en place des coalitions pour essayer d'unifier autant que faire se peut l'opposition.
Que signifie être opposant au Gabon?
Tous ceux qui sont contre le pouvoir monarchique de Bongo. Tous ceux qui voudraient que le Gabon entre dans la modernité, un pays démocratique qui respecte son opposition et ne cherche pas à tuer les gens, à les assassiner. Nous nous disons que ce que nous voulons faire, c'est mettre le Gabon à l'abri de la peur par une démocratisation effective et mettre le Gabon à l'abri du besoin. Voilà un pays très riche, avec une population très pauvre. C'est un paradoxe, mais c'est comme ça.
Ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de la Commission de l'Union africaine, est-ce que Jean Ping a des contacts avec des acteurs politiques burkinabés?
Nous essayons d'établir des contacts parce que nous avons ces similitudes. Mais je ne peux pas dire que nous les avions déjà établis, ni avant, ni aujourd'hui. Mais ultérieurement, bien sûr.
À l'investiture de Rochmar Christian Kabore, on a vu le président gabonais Ali Bongo, qui était le seul, du reste, le seul chef d'État de l'Afrique centrale à avoir effectué le déplacement. Est-ce que cela voudrait dire que les portes du Burkina sont fermées à Jean Ping et que Ali Bongo a déjà pris de l'avance?
Non, je n'ai pas été invité et je peux considérer que c'est tout à fait normal qu'un État comme le Burkina Faso, qui vient de procéder à des élections, invite des chefs d'État et pas des oppositions. Ça me paraît normal qu'il ait été invité, et pas moi.
Le Burkina a connu une insurrection populaire en octobre pour mettre fin au pouvoir de Blaise Compaoré. Le pays s'est dressé contre un coup d'État en septembre 2015. Du Gabon, est-ce que vous attendez un effet de contagion?
L'effet de contagion existe en ce sens que le Burkina, comme le Gabon, en même temps, nous nous trouvions dans la même situation qui appelait les mêmes réponses. Donc je ne sais pas s'il faut parler de contagion, il faut simplement parler du fait que nous nous trouvions dans des situations très similaires et que nous réagissions de manière similaire.
Jean Ping, merci.
Je vous en prie.